VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bienvenue à l'édition de ce mercredi 23 septembre 2015. Plein feu sur l'actualité.
Crise au Burkina Faso, les autorités de la transition sont rétablies dans leurs fonctions à Ouagadougou. Six jours après, le coup d'état du RSP, garde prétorienne du leader déchu, Blaise Compaoré.
Le gouvernement de transition que vous avez librement choisi et en qui vous avez totalement mis votre confiance est resté le seul à incarner la volonté du peuple souverain.
Nous entendrons le président de la transition, Michel Cafando.
Il est inimaginable de conserver le régime de sécurité présidentielle en l'état, a déclaré le premier ministre burkinabé Isaac Zida.
Et visite historique aux États-Unis du premier pape latino-américain de l'histoire. Le pape François a été acclamé dans les rues de Washington. Après une réception officielle à la Maison-Blanche, son message dans son itinéraire, les réactions dans cette édition.
Ailleurs dans le monde, l'Union européenne annonce l'augmentation de son assistance aux migrants ayant trouvé refuge dans les pays voisins de la Syrie.
Michel Cafando a été rétabli ce mercredi dans ses fonctions de chef d'État de la transition au Burkina Faso, en présence de plusieurs présidents africains représentant la CEDEAO. Le retour de M. Cafando et du Premier ministre Isaac Zida consacre l'échec du coup de force du 17 septembre dirigé par le général Gilbert Diendéré. Les accords de la CEDEAO, a dit Cafando, n'engageront le Burkina Faso que s'il entre dans le cadre de la charte de la transition.
Mes chers compatriotes, dans le malheur, nous avons lutté ensemble. Dans la liberté, nous triomphons ensemble. À présent, libre de mes mouvements, je reprends du service et par là même, je m'affirme en la légitimité nationale. La transition est ainsi de retour. Et reprend à la minute même l'exercice du pouvoir d'État. L'a-t-elle d'ailleurs jamais perdu ? Non, vu la clameur nationale contre les usurpateurs, vu la réprobation internationale contre l'imposture, c'est l'aveu même que le gouvernement de transition que vous avez librement choisi et en qui vous avez totalement mis votre confiance, est resté le seul à incarner la volonté du peuple souverain. Au demeurant, le président du Conseil national de la transition, M. Chérif Sy, agissant en intérimaire du président du FASO, a su garder la flamme intacte, je lui en sais gré. Je vous invite donc à rester mobilisés autour de la transition, pour qu'ensemble, nous continuions ce que nous avons commencé, à savoir remettre le processus électoral sur les rails, après avoir naturellement pansé les plaies et honoré la mémoire de nos compatriotes injustement tombés pour la défense de la patrie et dont certains gisent toujours dans les morgues.
Le président Michel Cafando rétablit aujourd'hui dans ses fonctions de chef d'État. Retour sur cette cérémonie avec Issa Napon, un de nos correspondants à Ouagadougou.
En guise de cérémonie de réinstallation du président, il s'est agi à Ouagadougou pour la mission de haut niveau de la CEDEAO de confirmer le président Michel Cafando comme président légitime du Burkina Faso et jouissant de ce fait de toutes les prérogatives y afférentes. C'est ce qu'a précisé le porte-parole de la mission, le président béninois Yayi Boni. Le facilitateur a ajouté que l'institution sous-régionale faisait confiance au Burkina Faso pour trouver ensuite dans le dialogue des solutions pour le reste des questions restées en suspens. Il s'agit notamment de l'amnistie ou non à accorder aux putschistes et l'inclusion ou non des candidats de l'ancienne majorité à la présidentielle prochaine. la mission de la CEDEAO qui rappelle être venue juste pour faciliter la restauration de l'ordre constitutionnel, remettre la transition en marche. Et pour faire bonne figure vis-à-vis du peuple burkinabé, les médiateurs de la CEDEAO ont promis de vérifier l'effectivité du début du désarmement et du cantonnement du régiment de sécurité présidentielle. Le président Ali Bongo a dit au nom de la mission espérer que les prochaines élections au Burkina soient libres, apaisées et transparentes. Quant pour le représentant des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, il faut toujours aller dans le sens de l'intérêt du peuple, épousant ainsi la volonté de la société civile et de la majorité de Burkinabé.
Pendant ce temps, qu'en est-il du chef des putschistes, Diendéré, et du RSP?
Si les sources concordantes se vérifient, il reste toujours cantonné au niveau donc du palais présidentiel de Kossiam, où le président de transition, Michel Kafando, ne va pas retourner maintenant. Il risque donc de continuer la transition pour l'instant en dehors donc du palais présidentiel de Kossiam. Et justement, il a annoncé déjà donc la tenue du premier conseil des ministres post-putsch pour demain jeudi.
Issa Napon, un de nos correspondants à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Le pape François, le chef de l'Église catholique romaine, est en visite aux États-Unis. Le président Barack Obama l'a chaleureusement accueilli aujourd'hui et devant près de 15 000 personnes réunies sur la pelouse de la Maison-Blanche. Le pape a pris la parole, ainsi que le président Barack Obama. Il faut dire que c'est avec une grande ferveur religieuse que les catholiques des États-Unis accueillent le souverain pontife dans cette tournée. Félicité Nyongere vit à Portland, dans l'état du Maine.
Je suis vraiment très, très heureuse, je suis très, très contente d'accueillir cet apôtre de Dieu, parce que c'est un invité de marque pour l'Église catholique entière et surtout pour l'Église catholique aux États-Unis. Nous sommes alors très, 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 très contents, vous ne pouvez pas imaginer, parce que nous voyons en lui un symbole de Dieu dans l'Église. Et nous sommes alors très honorés de le recevoir ici aux États-Unis.
Le père Pierre Loua, originaire de la Guinée et jésuite comme le Saint-Père, vit, lui, à San Francisco.
Un ami m'a appelé, un ami américain, caucasien. Il m'a dit qu'il n'est pas chrétien, mais qu'il est profondément touché par l'arrivée du pape parce qu'il pense apprendre quelque chose de lui. Nous vivons dans un monde qui est en train d'évoluer très rapidement. Et la majorité des gens dans ce monde sont en train de devenir pauvres. Et tous ceux qui sont concernés pour les pauvres et puis les faibles, je crois que c'est un sentiment partagé.
Le père Pierre Loua, originaire de la Guinée.
Voilà, et donc, on vous le disait tout à l'heure, hein, le président Barack Obama a chaleureusement accueilli le pape François. On fait le point avec Bagessikoura.
Nous n'avons pas encore le reportage de Bagassi, mais en studio avec nous, nous avons Timothée Donangmai. Alors Timothée, qu'est-ce qu'on peut dire jusqu'à présent de cette visite du pape François?
Alors, Yerubin, Gabi, cette visite du pape François a été très attendue. Et il faut dire que beaucoup de gens aujourd'hui sont restés à la maison parce qu'on a averti qu'il y aura beaucoup de trafic, qu'il y aura beaucoup de rues qui seront barrées du fait de cette visite du Saint-Père. Donc c'est une très grande occasion ici à Washington, non seulement pour les catholiques, mais aussi pour la population de Washington.
Et il faut dire que le pape est allé auprès des fidèles, il a eu à saluer de près certaines personnes, à embrasser des enfants. Et c'est un pape qui aime être au contact des gens, il faut le dire.
Et tout à fait, on a vu un des agents de sécurité prendre un bébé dans la foule, le tendre au pape pour qu'il lui fasse la bise avant de retourner le bébé à sa maman. C'est un pape qui aime vraiment le contact du peuple et c'est ce qui pose un défi pour les services de sécurité.
Ce qu'on attend surtout, Timothée, c'est le message que va délivrer le pape François au congrès demain.
Et oui, et on sait que le pape des pauvres va insister sur la nécessité pour les États-Unis d'en faire plus pour aider à lutter contre la pauvreté. Et il va aussi plaider pour un capitalisme à visage humain. Et donc, ce sont là des aspects de son message qui sont impatiemment attendus. Évidemment, des deux côtés des partis politiques au Congrès, on a différentes opinions à ce sujet, mais on verra qu'est-ce qu'il en sera.
Nous reparlerons dans quelques minutes de la visite du pape.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur la visite historique du pape François aux États-Unis. Un voyage rempli de symboles et de défis dans un pays où la population catholique est en baisse et marquée par les excès du capitalisme et les injustices sociales. Quel doit être, selon vous, le message du pape aux Américains? Est-ce l'occasion également d'avoir une pensée spéciale pour l'Afrique avant son voyage en novembre? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Dans le reste de l'actualité, dans le nord-est du Nigeria, plus de 200 personnes ont été tuées dimanche dans une explosion sur un marché.
Je crois qu'il s'agit de 20 personnes.
Oui, plus de 20 personnes donc qui ont été tuées dans une explosion sur un marché de la ville de Monguno. Et c'est ce qu'ont affirmé aujourd'hui des témoins et l'agence de secours du Nigeria. En raison du manque de moyens de communication, l'annonce de l'attaque a mis du temps à parvenir aux autorités. C'est ce qu'explique l'AFP.
Le gouvernement du Burundi exclut toute négociation avec des dirigeants de l'opposition et de la société civile poursuivis pour insurrection. Bujumbura rejette ainsi l'appel à un dialogue, n'excluant personne, appel lancé par l'Église catholique burundaise. Il faut dire que le camp présidentiel qualifie d'insurrection le mouvement de contestation déclenché fin avril contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza.
Et le procès d'Hissène Habré, ancien président du Tchad, se poursuit au Sénégal devant un tribunal spécial africain. La police politique était entièrement à ses ordres. Hissène Habré était au courant de tout, a témoigné un ancien responsable de ce service. Une fois une fiche établie par la DDS, la police politique, sur un prisonnier, seul le président pouvait demander une libération, a souligné Badjin Bandoum.
Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC a fait ses adieux. Martin Kobler a adressé devant la presse congolaise un bilan mitigé de son mandat.
C'est un moment très très difficile pour moi de partir. Ma dernière conférence des Nations Unies ici, j'ai commencé au mois d'août, je crois 2013, avec ma première. Je ne dis pas adieu aujourd'hui, je dis au revoir. Au revoir parce que je suis sûr plus tard je vais revenir dans ce pays parce que je suis tombé en amour. Je pars avec trois sentiments. Le premier sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. Le deuxième, un sentiment de fierté. Mais aussi le troisième sentiment, alors c'est un sentiment de frustration. Nous avons la période électorale devant nous, qui sera peut-être difficile. Les frustrations, ça concerne premièrement la coopération maintenant avec les FRDC parce que c'est bloqué.
Martin Kobler au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Au Soudan du Sud, on compte désormais plus de 200 morts suite à l'explosion d'un camion-citerne accidenté le 16 septembre. Les victimes tentaient, souvenez-vous, de récupérer la cargaison de carburant quand le véhicule a explosé.
Sommet d'urgence ce mercredi à Bruxelles sur la crise migratoire en Europe. Le bloc des 28 a mis l'accent sur la nécessité d'apporter de l'aide aux réfugiés dans les camps se trouvant dans les pays voisins de la Syrie. C'est en Turquie, Jordanie et au Liban que les aides doivent être apportées rapidement pour que les réfugiés ne soient pas tentés de venir en Europe où ils risquent leur vie, a déclaré le président François Hollande. Cependant, le désaccord persiste quant au flux de migrants déjà aux portes de l'Europe. La Slovaquie et la Hongrie s'opposent au système de quotas. La Roumanie et la Pologne ont accepté, après leur refus initial, d'accueillir des milliers de migrants.
Le Hajj, le plus grand rassemblement religieux annuel des musulmans, se déroule actuellement en Arabie Saoudite devant plus de 2 millions de pèlerins participant à une journée de prière dans la vallée du mont Arafat. Au Hajj, à la Mecque, le grand moufti d'Arabie Saoudite a appelé les adeptes de l'islam à travers le monde à s'unir contre les éléments égarés, y compris les groupes extrémistes tels que l'État islamique qui veulent reléguer cette religion à l'âge de l'ignorance.
Thank you. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorsil et Morgane Guerriec en votre compagnie. Et juste avant nos dossiers du jour, comme promis, nous revenons sur la visite du pape François pour dire qu'il s'est adressé aux évêques américains réunis à Washington. Première étape de sa visite, le Saint-Père leur a demandé de faire en sorte que les cas de pédophilie qui ont ébranlé l'Église et causé la ruine financière de plusieurs diocèses ne se répètent jamais. Arrivé hier dans la capitale américaine, le pape a eu une rencontre privée ce matin à la Maison-Blanche avec le président Obama. Il a été acclamé, nous l'avons dit, par des milliers de personnes dans les rues de Washington. Il prononcera demain un discours historique devant les deux chambres du Congrès réunies avant de se rendre aux Nations Unies à New York et à Philadelphie en fin de semaine. Rendons-nous en République du Congo, Morgane.
Le président Denis Sassou Nguesso a annoncé la tenue d'un référendum sur une nouvelle constitution qui lui permettrait de briguer un nouveau mandat. Pour l'opposition, c'est un coup d'État constitutionnel. Idriss Fall a recueilli la réaction de Guy Romain Kinfoussia, président du Front de l'opposition à Brazzaville.
Alors déjà, le fait que M. Sassou demande à la Cour constitutionnelle s'il a le droit de faire un référendum, la Cour constitutionnelle a dit que c'était oui, mais la Cour constitutionnelle n'est pas habilitée à répondre à des questions simplistes. La Cour constitutionnelle statue sur la constitutionnalité des modifications proposées par le gouvernement ou par le Parlement. Donc déjà là, il y a une tricherie. Deuxièmement, M. Sassou ne peut pas se donner le pouvoir ni les moyens de modifier une constitution qu'il a fait élire, sauf s'il nous dit qu'il démissionnera ipso facto avant de faire cette consultation populaire, parce qu'il ne peut pas couper l'arbre sur lequel il est assis. Voilà le premier commentaire qu'on veut faire. Dans tous les cas, nous savons que c'est pour un troisième mandat qu'il fait toute cette gymnastique et nous pensons qu'il ne pourra pas franchir le cap du troisième mandat, tout simplement parce qu'il n'y a pas droit. Il a terminé, il finit le 14 août 2016. Il lui reste à organiser une bonne élection pour élire son successeur.
Et qu'est-ce que vous allez faire en tant qu'opposition ?
Nous allons faire ce que les peuples qui veulent se libérer du joug des dictateurs vont faire. Vous apprécierez sur les actions qui vont être posées d'ici là.
C'est-à-dire un scénario à la Burkinabé, comme ce qui est arrivé à Blaise Compaoré ou bien ?
Nous ne pouvons pas, d'entrée de jeu, nous comparer au Burkinabé, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est tout à fait possible que nous nous retrouvions demain dans une situation analogue.
Guy Romain Kinfoussia, président du Front de l'opposition à Brazzaville.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Cap sur le Burundi, où l'appel de l'Église catholique à un dialogue n'excluant personne est salué par les autorités de Bujumbura. Selon le porte-parole Willy Niamitwe, le gouvernement prépare déjà un dialogue qui devrait être inclusif. Cependant, la participation de la coalition anti-troisième mandat de Pierre Nkurunziza au dialogue n'est pas envisagée. Joint par Roger Kalala, le porte-parole Willy Niamitwe.
Le gouvernement du Burundi reçoit positivement cet appel, parce que cet appel s'inscrit dans la politique même et l'orientation du gouvernement du Burundi qui veut un dialogue national et inclusif.
Vous voulez un dialogue national inclusif, mais vous n'êtes pas prêt à dialoguer avec ceux qui combattent le président Pierre Nkurunziza.
Alors, que ceux qui combattent se montrent. Est-ce que ceux qui combattent, qui créent l'insécurité au Burundi ou qui assassinent nos simples citoyens et jettent leurs cadavres dans des rivières, est-ce qu'ils se montrent? Pour l'instant, c'est des gens qui se cachent. Eh bien, avec des criminels, il n'y a pas de négociation ou de dialogue possible. Avec des criminels, c'est la justice.
Mais le président Pierre Nkurunziza avait promis un dialogue ouvert avec ses adversaires. La coalition anti-troisième mandat ne peut pas être parmi les membres qui peuvent participer à ce dialogue?
Si vous avez bien suivi le Conseil des ministres d'hier, penché sur la question du dialogue, nous allons vers la mise en place d'une commission nationale qui va s'occuper de ce dialogue qui est inclusif et qui doit se passer dans notre pays. Le gouvernement n'a jamais fermé les portes du dialogue. Mais tout simplement, il y a des gens qui, au lieu d'aller aux élections, préfèrent se cacher derrière une politique de négociation en créant l'insécurité pour pouvoir entrer dans certains postes comme à l'Assemblée nationale et au gouvernement sans nécessairement passer par des voies démocratiquement connues qui sont les urnes.
Mais qui pourra être invité parmi les membres de l'opposition?
Aujourd'hui, nous avons une quarantaine de partis politiques, un seul parti au pouvoir et d'autres partis d'opposition. Nous avons plusieurs milliers d'organisations de la société civile. Nous avons une population qui est éparpillée dans 119 communes. Donc, tout le monde sera convié à ce dialogue afin que le dialogue soit le plus inclusif que possible.
Au micro de Roger Kalala, le porte-parole du gouvernement burundais, Willy Nyamitwe.
République démocratique du Congo, les États-Unis se disent préoccupés par la condamnation, le 18 septembre, de 4 militants du groupe Lucha, lutte pour le changement, à 6 mois de prison par le tribunal de grande instance de Goma. Les autorités accusaient les 4 jeunes de désobéissance lors d'une manifestation le 7 avril dernier contre la détention de 2 autres membres de Lucha. De telles arrestations, détentions et condamnations d'activistes politiques ont un effet dissuasif sur la liberté d'organisation, de rassemblement et d'expression en RDC, souligne un communiqué du département d'État. Dans un contexte de préparation aux élections en RDC, Lucie Lamont a recueilli la réaction de Juvin Kombi, porte-parole de Lucha.
Je pense que cette période préélectorale agite les acteurs politiques et c'est ce qui fait que certains de nos membres sont en train d'être arrêtés parce que à la Lucha, nous essayons de dénoncer certaines entrevaleurs qui ne peuvent pas permettre qu'une liberté d'expression soit garantie dans notre pays. Et je crois que les politiciens voyant cela, ils s'acharnent vraiment contre tout celui qui peut, n'est-ce pas, dénoncer certaines choses qui se font à l'encontre des droits de la population parce que c'est pour eux une opportunité d'utiliser toute la réalité pour, rester au pouvoir.
Qu'est-ce que vous pensez de la réaction des États-Unis par rapport à cette condamnation?
Je crois que c'est la voix de tout le monde. Actuellement, nous avons, oui, entendre beaucoup d'organisations se prononcer, beaucoup des États se prononcer par rapport à la condamnation de nos collègues jusqu'ici. Et je suis tout à fait d'accord avec dans la mesure où ils demandent que nos amis, n'est-ce pas, ne devaient pas être traités de cette façon. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous avons publié un communiqué pour dire que c'est pas normal que le ministère public n'ait pas d'argument convaincant, puisse le juge puisse se prononcer à notre défaveur. Et c'est pour cette raison que nous avons même acté appel, parce que nous sommes contre ces jugements et nous l'avons attaqué en appel pour que ces jugements soient cassés. Ce n'est pas juste que les jeunes gens en revendiquant et dénonçant certaines injustices dans le pays, on puisse les qualifier à des personnes qui portent atteinte à la sécurité publique.
Est-ce que vous pourriez expliquer ce que le mouvement fait concrètement pour obtenir la libération de ces condamnés?
En fait, jusqu'ici, ils sont libres à Goma. Ils sont libres, ils bénéficient d'une liberté provisoire, c'est-à-dire qu'ils restent dans leur situation actuelle. Et le temps que nous attendons appel, en attendant que la Cour d'appel puisse nous donner un jugement d'acquittement comme nous l'espérons.
Juvin Kombi, porte-parole du groupe Lucha à Goma.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Voilà pour nos dossiers du jour. Maintenant, un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Claire Morin-Gibourg.
Florence Anastasie, tu dis à Chonatantan, est en notre compagnie.
Après Dakar, c'est Paris qui reçoit le prochain forum économique de la francophonie le 27 octobre prochain. L'objectif est clair, mettre en avant le potentiel de la langue française en dehors de la sphère uniquement culturelle. Dans les années qui viennent, l'Afrique sera le principal pourvoyeur de francophones, avec près de 54,7% des locuteurs, devant l'Europe et ses 37% seulement. Nos confrères du Point Afrique le soulignent, parmi les terrains où se jouera le sort de la francophonie économique, il y a ceux des métropoles, tellement la croissance urbaine sera forte. Selon la Fondation Africa France, c'est 1 milliard d'urbains, soit 600 millions de plus qu'aujourd'hui, qu'il faudra installer en Afrique dans les prochaines décennies. Akiwumi Adesina, le président de la BAD, la Banque africaine de développement, veut allumer l'Afrique. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, le nouveau patron de la BAD précise ses priorités. L'accès à l'énergie et la modernisation de l'agriculture. Pour lui, sans électricité, pas de développement. Sans énergie conventionnelle ou renouvelable, pas de santé, pas d'éducation, pas de croissance économique à 2 chiffres. L'Afrique dispose d'un potentiel exceptionnel, insiste-t-il. Il faut maintenant le développer. La Banque centrale sud-africaine a maintenu son taux d'intérêt inchangé à 6%, suivant la décision prise par la Réserve fédérale américaine la semaine dernière, et ce malgré la récente dépréciation du rand sud-africain. Les mauvais chiffres de la croissance sud-africaine au second trimestre sont dus au ralentissement de l'activité en Chine. La Banque centrale a mis en garde contre un risque de hausse de l'inflation.
La Minute Éco, merci Anastasie.
Dernière page, l'actualité sportive présentée ce soir par Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
On commence par le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs.
La FIFA a procédé aujourd'hui au tirage de cette compétition qui aura lieu en décembre prochain au Japon. Le vainqueur de la Ligue africaine des champions entrera en lice contre Auckland ou le vainqueur de la J-League. Le FC Barcelone, tenant de la Ligue des champions en Europe, affrontera le vainqueur du match entre les Mexicains d'América et le futur champion d'Asie, ce sera en demi-finale.
La FIFA face à la justice, quelles sont les dernières, Nicolas ?
La justice suisse a autorisé l'extradition du Vénézuélien Rafael Esquivel vers les États-Unis. Et ce, dans le cadre, vous vous en souvenez, de l'enquête pour corruption visant la FIFA. C'est ce qu'indique un communiqué de l'Office fédéral de la justice à Berne. Monsieur Esquivel, arrêté le 27 mai dernier à Zurich, est incarcéré depuis en Suisse. Il a 30 jours pour faire appel de cette décision auprès du tribunal pénal fédéral.
Les Jeux Olympiques de 2016, parlons-en.
Les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO d'été à Rio de Janeiro coûteront moins que celles de Londres en 2012. Dans un pays qui traverse une importante crise économique, le directeur des cérémonies du comité local d'organisation a affirmé que la conjoncture ne pèserait pas sur les festivités, dont l'objectif a toujours été, selon lui, d'éviter le pompeux. Le coût total des Jeux de Rio approche les 12 milliards de dollars, soit un peu moins que Londres 2012 et surtout beaucoup moins que Pékin 2008.
Le sport à tout âge.
Un guiret japonais plus que centenaire est entré au pas de course dans le livre Guinness des records. Tenez-vous bien, Gabi, ça donne de l'espoir. Il a établi le record du monde du 100 mètres des plus de 105 ans, adressant dans la foulée un clin d'œil à Usain Bolt, aux côtés duquel il rêve de courir un jour. Son nom, retenez-le bien, Hidekichi Miyazaki, surnommé Golden Bolt, en référence à l'homme le plus rapide de la planète. Il a parcouru le 100 mètres à Kyoto en 42 secondes et 22 centièmes.
Merci Nicolas Pinault.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà pour cette édition. C'était Lionel Gaïma à la mise en onde, Morgane Guériac et Chérubin Dorsil à la présentation.
On remercie également Micha Dubinsky à la console. Ainsi va le monde aujourd'hui. Nous sommes sur Facebook, ne l'oubliez pas, et sur voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.